Olivier Decoing, je suis très heureux de vous retrouver pour votre dernier livre en date, « Je vois des jardins partout », paru chez Jean-Claude Lattès. Alors, je dirais que le bonheur de vous retrouver est encore accru par la lecture de ce livre, promenade, en même temps autobiographie. J'ai eu le sentiment, en le lisant, que vous aviez démarré par le premier mot, la première phrase, et puis que vous aviez laissé votre esprit vagabonder comme votre regard sur les jardins que vous visitez.
C'est très exactement ça. En fait, ce livre, il est né d'une demande que m'avait fait Isabelle Lafont, qui dirige Lattès. Elle a un jardin, elle savait que j'avais des jardins, que j'aimais les jardins, et depuis 2-3 ans, elle me dit « Mais tu en parles d'une façon que j'aime bien, tu devrais faire un livre dessus. » J'ai dit « Mais je ne sais pas par quel bout prendre un livre, je ne vais pas faire un livre de conseils aux jardiniers, je n'ai pas la compétence pour le faire. » Et puis je me suis dit « Dans le fond, quand je visite un jardin, mon regard, c'est le contraire de ce que Louis XIV faisait en disant « Voilà comment il faut visiter les jardins de Versailles, mettez-vous face à tel truc, tournez le dos à telle chose. » Il faut laisser errer son regard, divaguer sa pensée et construire ce livre comme une visite de jardin. C'est ce que j'ai voulu tenter de faire.
Vous faites d'ailleurs plusieurs comparaisons entre le travail du jardinier et le travail de l'écrivain, et également entre la position du spectateur et la position du lecteur. J'ai trouvé ça tout à fait juste et approprié.
Alors pour moi, ça n'y a pas effectivement le jardinier et l'écrivain. Sans avoir les mêmes outils, font les mêmes travaux. Parce que qu'est-ce que fait le jardinier? Son but, c'est de révéler le sens de son jardin. Et donc, il va enlever les fleurs fanées, il va arracher les mauvaises herbes, il va essayer de faire surgir le vocabulaire de son jardin. Bon. Et l'écrivain, il fait pareil. Il fait la chasse aux adverbes trop lourds, il fait la chasse aux adjectifs encombrants, de même que le jardinier arrache le pissenlit qui pousse entre deux rosiers et qui dépare la plate-bande. C'est la même démarche qui consiste à chercher le cœur battant du livre, du texte, et le cœur battant du jardin. Alors, c'est vrai que l'écrivain a un stylo, aujourd'hui un ordinateur, et que le jardinier un sécateur, mais le geste est le même, c'est un geste de gens qui gomment, qui sarclent, qui cherchent l'essentiel. Quant au lecteur et aux visiteurs de jardin, spectateurs de jardin, je pense que c'est la même attitude, parce que quelque part ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Quand vous promenez dans un jardin, vous ne savez absolument pas ce qui vous attend au détour d'une allée ou après un buisson, un massif. Et c'est cette surprise que je retrouve, moi, quand je lis un livre. Je tourne la page, il y a de nouveaux mots. Et quand je tourne le massif, il y a de nouvelles fleurs, il y a de nouvelles couleurs, etc. J'ajouterais que, quelque part, pour moi, le jardin fonctionne comme l'écriture, avec une grammaire, une syntaxe. Avec un vocabulaire, chaque plante est un mot. Et on pourrait dire à l'inverse que chaque mot est une fleur aussi, dans certains. En poésie, en tout cas, c'est certainement le cas.
Alors, il y a un autre point de similitude, mais que vous n'exposez pas tel quel, entre l'écrivain et le jardinier. C'est lorsqu'on remonte à l'enfance, vous dites le jardin est l'endroit où l'enfant peut se créer toutes ses utopies.
Oui, parce que c'est là où il peut tout rêver. L'enfant n'a pas besoin de grand-chose. Je me rappellerai toujours cette phrase du philosophe Alain qui disait que ce qui était pour un soldat dans une caserne, rien n'était mieux qu'une flaque de boue avec une planche en travers. Parce que le soldat qui s'ennuyait dans sa caserne pouvait s'imaginer alors qu'il était sur une île déserte ou qu'il était sur un pont majestueux enjambant je ne sais quel fleuve sublime, etc. Et l'enfant dans le jardin fait la même chose. Il suffit d'un arbre dans lequel l'enfant peut grimper. Vous allez me dire, mais une forêt, c'est pareil. Mais dans un jardin, il n'y a pas qu'un arbre, il y a d'autres choses. Mais il suffit de l'arbre dans lequel l'enfant peut grimper. Il se croit dans les mâts d'un grand voilier en partance pour les tropiques. Moi, j'ai joué dans le jardin de mes parents. C'était un terrain d'imagination qui était extraordinaire. L'été, quand il faisait un petit peu chaud, je me faufilais entre deux buissons, persuadé que j'étais dans la forêt amazonienne, en route pour Manaus. C'est parce que je rêvais d'aller à Manaus. Bon. L'hiver, quand il faisait très froid, qu'il y avait de la neige ou du gel, je m'imaginais fouler la banquise à recherche des manchots et des pingouins. C'est vraiment un lieu où l'imagination peut se développer. J'ajoute à cela que c'est un lieu où on lit le jardin. c'est le plus beau des salons de lecture, parce que le vent vous aide à tourner les pages du livre, et puis alors il vous apporte des effluves extrêmement variés qui sont enchanteurs. Moi, mes plus belles lectures d'enfants et probablement d'adolescents, c'est pas dans mon lit, vous savez, on soulève le drap et on met une lampe de poche pour lire en clandestin, c'est dans les jardins. J'ai découvert Jules Verne, je me revois encore, hein, et ça commence à dater maintenant. Relire 5 semaines en ballon, qui est un des Jules Verne que j'aime le mieux, dans une espèce de hamac qui était tendu entre deux pommiers, et m'imaginer que j'étais dans la nacelle du ballon, qui s'appelait le Victoria, en compagnie de Ferguson, du docteur Kennedy, etc., enfin, des personnages de Jules Verne. Et j'avais le livre d'un côté et mon rêve de l'autre, et les deux se télescopaient et se mélangeaient. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que je suis devenu écrivain? À me raconter des histoires dans un jardin et à me dire, ben, un jour, c'est moi qui vais les raconter, peut-être.
Il y a aussi, vous racontez aussi une autre source possible de votre vocation d'écrivain. C'est ce professeur de lettres qui vous a ouvert d'une certaine manière à une réconciliation avec la langue française que vous aviez perdu lorsque vous avez voulu écrire Chrysanthème, qui est un des mots une des fleurs que vous avez détesté.
Ça a été une horreur parce que d'une des premières dictées que j'ai eu à faire, il y avait ce foutu mot de Chrysanthème. Alors, faut dire que c'était du sadisme de demander à un bambin, qu'est-ce que je devais avoir, 6 ans peut-être, de savoir écrire le mot chrysanthème. Et je me suis dit que l'orthographe, la langue française, c'était une chose la plus haïssable de la terre, parce que je l'avais très très mal écrit, évidemment. Bon, et puis je suis tombé sur un prof de français. J'ai eu la chance qu'il m'a suivi de 4e, 3e, seconde. Je l'ai eu 3 ans de suite. Je montais d'une classe, mais aussi montais d'une classe. Et qui était une espèce de fou de littérature. Il savait enseigner comme j'ai jamais vu quelqu'un enseigner. Parce que, dans le fond, le programme officiel, il s'en foutait. Ce qu'il voulait, c'était nous donner le goût de lire. Mais qu'on soit, comme lui, des fondus, des malades de lecture. Et ça allait très loin. Par exemple, quand il a voulu nous faire découvrir les philosophes grecs, il nous a dit, messieurs, il n'est pas question que vous découvriez les philosophes grecs à Paris. Il faut que je vous emmène à Athènes. Nous déambulerons de concert sur l'Agora, et là, vous comprendrez ce que Démosthène voulait dire. Et donc, un certain nombre d'entre nous, dont les parents étaient particulièrement gentils, ont pu partir avec ce prof qui était français, latin, grec, hein, à Athènes. Et ça, c'est un souvenir inoubliable. Nous étions 4-5 lurons déambulant avec lui, effectivement, sur l'Agora. Et ça enseigner comme ça, vous comprenez, on est au-delà de l'enseignement. Cet homme est un génie. J'ai un immense regret, c'est qu'il soit mort avant d'avoir su qu'au moins l'un de ses pupilles était devenu écrivain. Je pense que quelque part, ça lui aurait fait plaisir. Mais il m'a fait découvrir la littérature américaine, il m'a fait découvrir les Japonais, il m'a fait découvrir des tas d'auteurs qui sont évidemment pas Rousseau et Voltaire, qui sont pas négligeables par ailleurs, mais il m'a permis de rêver, il m'a fait rêver à d'autres choses.
Alors dans les écrivains, il y en a un, parce que votre livre est aussi non seulement un jardin littéraire, mais il est aussi une bibliothèque. Et donc il y a toute une série d'ouvrages et d'écrivains que vous citez et qui nous donnent envie d'aller y voir de plus près, notamment Yasunari Kawabata.
Ah oui, mais ça c'est... Vous savez, Yasunari Kawabata, j'ai dans mon bureau, j'ai un portrait de lui qui est derrière mon épaule, c'est-à-dire qu'il me regarde écrire. De temps en temps, je me retourne vers lui et je lui dis « Maître, je crois que je suis en train de rater mon chapitre. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une onde favorable ?» Je pense que Kawabata, c'est mon dieu en écriture. Pourquoi ? Parce que c'est l'écriture la plus cristalline, la plus transparente, la plus vraie. Rien ne dépasse chez Kawabata. De même que sur la plate-bande réussie, vous coupez ce qui dépasse les mauvaises herbes. Kawabata, c'est la pureté. Kawabata, c'est une sorte de virginité du mot et de la phrase. Et même de l'histoire, parce que ce sont des histoires qui parfois n'ont pas d'histoire, mais qui sont plus belles que si elles étaient des histoires. Enfin, il faut quand même dire qu'il a eu le prix Nobel de littérature, c'était pas n'importe qui. Mais si vous le comparez, par exemple, à Yukio Mishima, qui n'est pas mauvais non plus, et Mishima, c'est un peu en poulet. Kawabata, c'est la transparence, c'est l'écriture. Je cherche Kawabata dans moi en écrivant. Je sais que je n'écris pas comme lui. Je sais que le jour qui n'arrivera jamais, mais où j'aurais pu arriver à écrire comme lui, j'aurais cessé d'écrire. j'aurais trouvé mon Graal, j'aurais trouvé l'alchimiste qui réussit la transformation du plomb en or. Le jour où il l'a réussi, il s'arrête, point barre, il a réussi son truc. Alors moi, non seulement j'ai le portrait de Yasunari Kawabata derrière moi, mais j'ai tous ses livres, j'en ai partout du Kawabata. J'en ai dans ma chambre, j'en ai dans mon bureau, j'en ai dans la voiture. Et il n'est pas une journée sans lire une page de Kawabata. Malheureusement, je vais vous dire en traduction, il y a des années de ça, j'aimais tellement Kawabata que je me suis dit, je vais apprendre le japonais pour le lire dans le texte. J'ai renoncé très vite. C'est très difficile. J'aurais peut-être pu arriver à commander une escalope dans un restaurant, mais lire Kawabata dans le texte, j'aurais jamais parlé assez bien. Mais bon, il est très bien traduit en France, très très bien traduit. Et il est pas mal traduit non plus en anglais. Donc c'est deux moyens de l'approcher.
Alors un autre livre auquel vous faites référence, c'est la Bible, disant que d'une certaine manière, le premier des jardins est l'Éden. Et vous décrivez un peu la manière dont Dieu finalement était avant tout un jardinier.
Oui. Non seulement Dieu était un jardinier parce qu'il a donné, il a créé, d'après la Bible, hein, on est dans un univers métaphorique. Là.
Oui, non, bien sûr.
Il a créé un jardin pour Adam et pour Ève, mais ce que on ne sait pas, c'est que moi, la Bible, j'adore la lire et m'arrêter sur chaque mot, parce qu'il y a des mots, parfois on les saute sans se rendre compte de l'importance qu'ils ont. Il est dit à un certain moment dans la Genèse que Dieu a confié le jardin d'Éden à Adam, pour qu'il le soigne, pour qu'il l'entretienne, je ne sais pas quel est le mot hébreu qui est gênant. Mais c'est vrai que Adam n'est pas quelqu'un qui se tourne les pouces. Adam est un jardinier, Dieu l'a fait jardinier. Le premier homme est le premier jardinier. Et ça, je trouve que c'est une chose qu'on n'a pas assez relevée. Ève est la première cueilleuse de fruits, mais le rôle d'Adam était d'entretenir le jardin d'Éden. Et quand il est jeté sur terre en punition avec Ève, je pense qu'il n'est pas trop dépaysé, parce qu'il va pouvoir cultiver très vite, il sait comment ça marche. Il sait qu'il faut mettre une graine dans la terre, etc. Il sait qu'il faut sarcler, qu'il faut biner, qu'il faut probablement se servir d'une bêche, vous voyez. Je trouve très très intéressant, parce que nous, on en a fait le premier oisif. Le premier type qui avait rien à faire d'autre, qui a regardé volter les oiseaux de paradis, à lutiner Ève de temps en temps, comme ça, et puis à surveiller qu'il n'y ait pas un serpent mal intentionné qui se glisse sous les figuiers. Non, Adam était un travailleur, Adam était un jardinier.
Vous dites aussi que, si je me souviens bien, que le jardin, dans la perception qu'en donne la Bible et dans la description à nouveau métaphorique qu'en donne, a aussi sa force dans le fait qu'il est à la fois une nourriture esthétique et une nourriture au sens premier.
Oui, vous savez, on mange beaucoup dans la Bible. C'est un livre qui est gustatif, tous les sens de l'homme sont utilisés. Mais c'est vrai que le jardin nourrit le plaisir visuel, le plaisir olfactif, le plaisir gustatif, parce qu'on peut manger des fleurs, des plantes, mais des fleurs aussi, la sensualité du toucher, ça nourrit. Et en même temps, ça fournit des nutriments de grande qualité.
Alors votre livre est non seulement ce livre bibliothèque, ce livre amoureux, on pourrait presque dire dictionnaire amoureux du jardin.
Petit, oui. C'est un tout petit livre, oui, en petit.
Mais il est aussi très drôle, parce que vous racontez certaines anecdotes des passionnés de jardin, notamment Phénix. J'aimerais que vous nous racontiez en quelques mots cet épisode de Phénix où vous essayez de planter un cactus. Votre épouse Chantal, qui est finalement, si j'ai bien compris, la vraie jardinière dans le couple, ne croit pas à ce que ce Phénix puisse...
Chantal est l'initiatrice, c'est elle qui m'a appris, comme mon professeur de français m'a révélé la langue française, Chantal m'a révélé le monde des jardins. Phénix canariensis, ce sont des graines que j'avais achetées à Quiberon, donc en Bretagne, qui sont des graines de palmiers. Je développe un amour immodéré pour les palmiers, qui est l'arbre le plus généreux du monde, car vous pouvez faire avec un palmier, vous pouvez faire avec plusieurs palmiers, faire des maisons, ils vous donnent à manger, ils vous donnent à boire, vous pouvez faire des tapis, vous pouvez vous habiller avec. Bon, c'est un arbre fabuleux, en plus je le trouve extrêmement beau. Et donc un jour je tombe sur un petit sachet de graines, marqué graines de Phénix canariensis, et je demande, ça devient quoi ? Un palmier, monsieur. Mais un palmier en pot, pas du tout, monsieur. Un grand palmier, ça peut atteindre 12 mètres de haut. Et je dis à ma femme, ça, je vais les planter. Alors, elle était déjà un petit peu dubitative. Nous achetons néanmoins le sachet de graines pour rien du tout. Et je plante très consciencieusement, comme c'était indiqué sur le mode d'emploi. Et normalement, un an après, je devais avoir déjà 20, 30 centimètres de palmiers sortis de mon pot. Or, un an après, c'était rien passé. Mais je le choyais, hein. Je l'arrosais comme on me disait de l'arroser, je le mettais à la température qu'il fallait le mettre, je lui parlais. Je lui disais, je suis pressé de te voir, est-ce que tu veux faire un effort? Est-ce que tu veux sortir de terre, petit palmier? Au bout de 2 ans, toujours rien. Au bout de 3 ans, un frémissement, mais non, c'était juste un gravier qui avait roulé dans le pot. Je crois que c'est au bout de 4 ans, je vois tout d'un coup poindre, mais ce qu'on appelle une plantule, c'est-à-dire l'extrémité, ça devait mesurer 1 mm, mais c'était vert, et d'évidence, c'était pas de la terre ni du gravier, c'était du végétal. Donc je vais montrer ça à Chantal, je dis, vous regardez mon palmier, elle éclate de rire, mais attends, c'est peut-être une herbe, ça, je suis pas sûr du tout que ce soit un palmier. J'ai continué à m'en occuper, à le dorloter, à lui donner tout ce dont il pouvait avoir besoin. Et la plantule a grandi, elle est passée de 1 mm à 2 mm. Et là, pour moi, il était clair que c'était mon palmier. Et puis j'ai un fils qui a un chat que j'adore, et ce chat aime l'herbe à chat. Et un jour, croyant que c'était de l'herbe à chat, le chat, qui est une chatte d'ailleurs, a donné un petit coup de dent et a coupé la moitié de mon palmier, qui est redescendu à la taille d'un demi millimètre. Mais il était toujours vivant. Et je continue. Alors, on se fichait de moi, parce que pour tout le monde, c'était un pot avec rien dedans, avec de la terre. Moi, je voyais bien qu'il y avait un palmier. Et un jour, effectivement, à force de patience et de soins, il est arrivé à atteindre une petite taille de quelques centimètres. Et là, c'était clair. Je vous assure que c'était un palmier. Et là, il n'était plus question que je m'en sépare. Donc, quand on partait dans notre petite maison de pêcheurs du bord de mer, j'emmenais mon pot avec mon palmier dedans. Quand on rentrait, je revenais avec mon pot de palmier. Je ne l'abandonnais pas, hein. Et puis, un jour, il a fallu rentrer à la maison avec une voiture qui était pleine de bagages, de je ne sais pas quoi. Et donc, Chantal me dit, écoute, laisse ton palmier, on revient dans 3 semaines, on va le laisser, voilà, dans la véranda, il va être au chaud, il va être content. Je lui ai dit au revoir avec beaucoup d'émotion. Je reviens dans 3 semaines, sois sage, etc. Et quand je suis revenu 3 semaines après, c'était plus qu'une espèce de machin sec. Il était mort. Et j'ai l'impression, j'ai le même remords que ces gens qui, eux, n'ont pas forcément de remords, qui attachent leur chien, vous savez, à un arbre pour partir en vacances. Je me dis que il est peut-être mort du fait de plus avoir ma compagnie. Non pas que je sois irremplaçable, mais parce que j'étais quelqu'un qui lui parlait, qui je m'occupais de lui, je le regardais. Et je me suis demandé si, je pense pas que les plantes aient une sensibilité, une intelligence, mais il se passe quelque chose. On sait que si vous voulez faire pousser une plante, vous lui faites jouer du Bach. Et paraît-il, l'architecture musicale de Jean-Sébastien Bach incite la plante à mieux pousser.
Il y a plusieurs passages dans votre livre où d'ailleurs des humains dialoguent avec des arbres, les incitent à pousser, à donner des fruits. Alors il y a une dernière petite anecdote que j'aimerais que vous racontiez, parce que votre livre est truffé comme ça de petits épisodes de votre vie quotidienne, votre goût pour l'Angleterre aussi. Là, c'est quelque chose qui est... Et notamment de ces voyages que vous faites avec cette presque secte, je dirais, de la 5e saison. Alors en 2 mots.
Ouais, c'est une bande de fondus, on est 20, 23, 25, ça varie un petit peu. Et tous les ans, nous faisons 4 jours, parfois 2 fois par an, 4 jours de voyage, de visite de jardin. Mais c'est du stacanovisme, parce que c'est de l'ordre de 7 à 8 jardins par jour, au pas de charge. C'est-à-dire que ça commence très tôt le matin et ça se termine vraiment quand le soleil est couché et qu'on nous fout dehors. Et on visite des jardins privés, des jardins publics, des jardins botaniques, des arboretums, en fait... Voilà. Et cette bande de fous furieux, on a tous des jardins. Alors, vous vous rendez compte l'échange que ça peut donner, mais surtout, ce qui me faisait rire et qui m'enchante dans ces voyages, là, il y en a un qui est prêt à partir pour la Cornouaille dans pas très longtemps, ça va se passer comme les autres années, c'est que, avant de partir, quand on est sur le quai de la gare ou sur le tarmac de l'aéroport, on se dit, et cette fois-ci, nous ne rapportons pas de plantes, parce que nous n'avons pas de place dans nos jardins, ce qui est souvent vrai. Et il n'y a rien à faire. Les Anglais, notamment, ont une chose très tentante qu'ils appellent des nurseries, que nous appelons des jardinlands ou autres trucs comme ça. Et ça revient, l'autocar. Je me rappelle qu'une fois, on était obligé de faire ajouter un wagon à l'Eurostar, vous vous rendez compte, hein, quand même, pour mettre nos plantes.
Un surclassement en première classe dans avion.
Ça a été extraordinaire. On partait de Londres et la première d'entre nous se présente à la coupée de l'avion avec les bras mais surchargés de plantes. Et il y avait l'hôtesse qui était à la coupée, qui était une Anglaise et qui était ravie de voir qu'une Française avait acheté le petite plante et la petite fleur d'Angleterre. Et donc elle l'a fait rentrer avec un grand sourire et tout. Et puis est arrivée une deuxième dame de notre secte avec elle aussi les bras chargés. L'hôtesse a pensé c'était une copine de la première, elle dit « Oh, votre ami attend déjà !» Elle a fait monter dans l'avion, et puis une troisième, il y en avait 23 comme ça. Et quand les 23 ont été dans l'avion, c'était des plantes avec des tuteurs, avec des épines, etc. Et l'hôtesse s'est dit qu'au nom de la sécurité, on ne pouvait pas laisser des gens en cas de trou d'air, on se serait crevé les yeux, etc. Donc elle a dit « Écoutez, nous allons faire une chose, c'est que vos plantes vont voyager en première classe. Vous restez en touriste. » Alors, nous avons, avec elle, emmené nos plantes, nous les avons posées sur les fauteuils de première classe, nous leur avons mis la ceinture de sécurité pour que, en cas de trou d'air, elles n'aillent pas se fracasser, etc. Nous avons regagné la cabine touriste. De temps en temps, l'un d'entre nous allait en catimini voir en première si tout se passait bien, si les plantes ne se cognaient pas trop les unes contre les autres. Mais c'était un voyage. Je me rappelle, je revois le rideau tiré, vous savez, entre les deux classes, et on se demandait si elles étaient contentes devant. Et c'est toujours une équipée. Alors là, en Cornouaille, nous allons visiter notamment un jardin, paraît-il, assez étonnant dans une île. Étonnant parce que c'est un jardin qui subit les vents atlantiques et donc des essences particulières. Et le seul moyen de rejoindre cette île, c'est d'y aller en hélicoptère. Alors je me demande comment nous allons, combien de vols il va falloir pour ramener nous et pour ramener nos plantes sur la terre ferme.
Eh bien, on attendra le deuxième volume de votre livre, dont j'insiste, nous n'avons évoqué que quelques petits épisodes. C'est un livre très agréable, très 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 merveilleux à lire. Je vois des jardins partout. C'est paru chez Jean-Claude Lattès. Didier Decoing, je vous remercie.
Moi, je vous remercie beaucoup.